Eh ben.
Direction la base navale dans ce journal où on visitera un patrouilleur flambant neuf. On parlera du projet gazier de Hitia et de l'immeuble CPS de Papété. Et puis du MMA en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Un patrouilleur hacké à Papeete.
Un patrouilleur outre-mer même, un pomme comme on dit dans la marine nationale, qui doit recevoir 6 navires de cette nouvelle classe conçue spécialement pour les grandes ZEE ultramarines. La Polynésie doit en recevoir 2 en fin d'année puis en 2025. Mais la base navale de Papeete s'offre depuis hier un avant-goût de ses futurs bâtiments avec le passage en escale de l'Auguste Benebig. Il s'agit du navire tête de série, le premier pomme à avoir été construit. Il est destiné à la Nouvelle-Calédonie. Parti en janvier de Brest, il a fait escale aux Canaries, à Fort-de-France ou encore en Équateur, où il a mené des exercices communs avec les gardes-côtes locaux. Le voici donc au Fénois. Et jusqu'à présent, l'équipage et son commandant, le capitaine de corvette Jean-François Cabaret, sont très contents du résultat.
Depuis Brest, on a parcouru pas mal de chemin. On a traversé 2 océans. C'est pas rien. C'est une belle mission pour n'importe quel marin et encore plus en tant que commandant. Et c'est une traversée qui, de par sa durée et de la distance parcourue, permet vraiment d'éprouver, de vérifier les caractéristiques et les capacités de ce bateau dans la durée. Et jusqu'à présent, on en est content.
Les pommes qui viennent remplacer les vieux P400 comme la Railleuse ou la Tapageuse, longtemps basée au Fénois, ou encore la Glorieuse, toujours en poste à Nouméa. Ils prendront aussi la suite de navires comme le vénérable Arago, toujours en service après 25 ans en Polynésie. Et bien sûr, ils les remplaceront avantageusement, plus rapides, plus autonomes, plus gros aussi, avec leurs 1300 tonnes et leurs 80 mètres de long. Les patrouilleurs outre-mer ont été créés pour répondre au mieux aux missions locales. On parle de police des pêches, de lutte contre le narcotrafic, du secours à personne et plus globalement de la défense et de la surveillance de la ZEE. Pour ça, l'Auguste Benebig et les autres disposent de plus de lits, jusqu'à 59, de moteurs hybrides, de Zodiac, d'intervention rapide, d'un canon de 4 mitrailleuses. Il dispose aussi d'équipements très particuliers.
En premier lieu, la mise en œuvre du drone. Le drone est un apport indéniable pour la surveillance maritime de la ZEE. Et on peut penser également à ses capacités optroniques, qui lui offrent des capacités de surveillance plus importantes que celles qu'elle a actuellement durant les activités de nuit. Et enfin, on a évoqué d'autres capacités annexes, comme la possibilité de mener des opérations d'hydrographie ou encore une capacité d'emport de personnel qui est facilitée par rapport à celle des patrouilleurs de la génération précédente.
Le lieutenant de vaisseau Bastien, qui n'est pas membre de l'équipage de l'Auguste Benebig, mais l'ex-commandant de l'Arago, aujourd'hui attaché à l'état-major d'Aloué. Son ancien bateau devrait rester en fonction au Fénois jusqu'à l'arrivée du premier pomme polynésien. Il s'agit du Teri Ero à Teri O Teiterei. Il est aujourd'hui dans les chantiers de Boulogne-sur-Mer et ne sera pas livré avant la fin de l'année. L'Arago pourrait même attendre l'arrivée du second pomme du pays, le Philippe Bernardino, qui est prévu pour 2025.
On a toujours côté mer davantage de DCP.
C'est ce que promet la direction des ressources marines. Mais attention, on parle de DCP ancrés. Il y en avait une centaine au large des côtes du Fénois en fin d'année dernière. Au moins 40 de plus vont être installés en 2023, a-t-on appris au Conseil des ministres. Alors du côté des îles du Vent, bien sûr, des Raromatei, des Tuamutu, qui en a déjà beaucoup, mais aussi du côté des Australes, qui n'en avaient pour l'instant qu'un seul. Ces dispositifs de concentration de poissons sont amarrés à plus de 1000 mètres de fond, à environ 10 000 des côtes, et servent à fixer la ressource halieutique pour les pêcheurs professionnels, qui font au passage des économies de carburant. L'idée de DCP mobile dans la ZEE est aussi évoqué par la DRM.
Le gaz arrive à Hitia.
Et oui, la première pierre du projet Manaito a été posée ce matin dans la zone de Nivea au PK39 côté montagne, peu après Papeete. C'est là que doit naître un site sécurisé de réception, de stockage et de conditionnement de gaz de pétrole liquéfié qui devrait être mis en service en 2024. Un investissement de plus de 4 milliards de francs pour le groupe Moux qui s'investit donc de nouveau dans ce marché contrôlé par le groupe Chou et Gaz de Tahiti depuis plus de 20 ans. Plusieurs constructions sont prévues sur le site, une route d'accès vers la vallée, des bâtiments techniques, un local incendie, une pomperie, une unité de remplissage des bonbonnes, un poste de chargement de camions et puis côté mer, un système complet d'amarrage des navires ravitailleurs. Le stockage du butane et du propane sera lui réparti dans 3 cuves sous sarcophage pour un total de 6000 m3 contre 4400 à l'heure actuelle dans les cuves du groupe Sioux à Motuhuta. La cérémonie de pose de la première pierre est toujours en cours du côté d'Itia. Après les prières et mise en contexte local de Raymond Graff, place au discours en ce moment même d'Albert Moux, du Tavana Henri Flore ou encore de Thierry Alpha, président de la communauté de communes Théa Manouche. Plus d'informations à venir bien sûr sur radio1.pf.
Une autre première pierre, c'était hier à Papeete cette fois.
Et c'était celle de l'immeuble Teaorua. Cette première pierre, elle a été posée par les dirigeants de la CPS, puisque c'est la caisse qui finance ce projet. Ce n'est pas une première, puisque la CPS avait déjà investi par le passé dans plusieurs projets immobiliers. On pense notamment aux immeubles Oupa et Papineau. Mais elle n'avait jamais jusque-là construit du logement intermédiaire. Teaorua va s'élever sur 8 niveaux sur le site de l'ancien siège de la caisse face au collège Pommeré 4 de Papeete et proposer une soixantaine de logements, 230 places de parking et une quinzaine de commerces, dont deux restaurants. Coût total de l'opération pour la CPS, 3,9 milliards de francs. Un bon investissement, c'est ce qu'assure le directeur de la caisse, Vincent Fabre.
Alors, l'objectif de rendement pour l'ensemble du parc immobilier de la CPS est minimum 6% de rendement et plus si possible, sachant que l'objectif sur ce projet-là, c'est bien sûr d'avoir des rendements, mais également de contribuer à la politique publique de l'habitat. Et c'est vrai qu'on le sait, aujourd'hui, on a un manque de logements, notamment pour les ménages entre 2 et 4 SMIC.
Voilà, le permis de construire de Teaorua a été délivré. Les travaux doivent commencer dès le troisième trimestre pour une livraison prévue en juin 2026. Pour les potentiels acheteurs, il faudra d'abord montrer patte blanche. Les loyers des appartements seront certes limités, mais ils seront réservés aux ménages ne disposant que de 2 à 4 SMIG. Quant à la CPS, elle ne s'arrêtera pas à ce projet. D'autres immeubles sont déjà à l'étude.
On a effectivement un projet sur le parking Pau Fei qui nous appartient, qui a été privatisé en 2022. Pour l'instant, on est en phase d'instruction d'un avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. Et on espère pouvoir déposer un permis de construire avant la fin de l'année 2023.
Voilà Vincent Fabre, il était au micro de Caroline Perdry.
L'économie maintenant avec ce focus sur les prix.
Oui, les prix qui continuent de grimper malheureusement, mais ils augmentent de moins en moins rapidement. C'est ce que relève l'ISPF dans son dernier IPC. En fait, février, cet indice des prix à la consommation a pris 0,2 points, ce qui amène à 5,9% sa progression sur un an. C'est beaucoup, mais c'est moins que les 8,5% de l'année 2022. L'inflation ralentit donc, mais pas partout. Dans le dernier relevé, les prix des produits de la mer ou des transports sont bien en baisse, mais ceux de l'alimentation, des voitures ou des loyers gardent une tendance haussière. A noter aussi que l'index du BTP sur lequel se base la facturation de nombreux chantiers continue lui aussi de grimper, 13,3% sur les 12 derniers mois tout de même.
La CSTPFO est toujours le premier syndicat du pays.
Oui, c'est ce que révèlent les derniers chiffres de la représentativité syndicale qui ont été diffusés hier après le Conseil des ministres, avec 9 350 voix, soit 26% des suffrages aux élections professionnelles. La centrale de Patrick Galnon est toujours suivie de Atiya Imoua, mais pour la première fois, c'est Otaï qui s'impose comme la troisième centrale du Fénois. La CSIP de Cyril Le Gaïc est-elle en baisse, mais reste devant Ohé Toerima.
Direction Paris où la réforme nationale des retraites a été adoptée.
Elle a été adoptée à l'Assemblée mais pas votée. Face à la pression de la rue et la difficulté de trouver une majorité pour ce texte très contesté, le gouvernement d'Elisabeth Borne a dégainé une arme constitutionnelle, le 49-3, un article qui permet d'éviter un vote sur un texte et de mettre à la place en jeu la responsabilité du gouvernement. En clair, les sénateurs ont bien validé la réforme mais les députés, eux, n'ont pas pu dire oui ou non. Ils devraient en revanche dire oui ou non au maintien en place du gouvernement actuel, puisque une motion de censure transpartisane a été déposée. Alors si on parle de cette actualité nationale dans ce journal local, c'est que cette réforme des retraites, qui repousse notamment l'âge de départ de 62 à 64 ans, était aussi contestée ici, au Fénois. Après 7 mobilisations, dont celle de mardi, l'intersyndicale des fonctionnaires d'État, les seuls à être concernés en Polynésie, appelait de nouveau à la grève depuis ce matin. De nombreux établissements scolaires sont ainsi perturbés, voire fermés aujourd'hui. L'adoption à Paris marque-t-elle la fin de ce combat? Eh bien non, les centrales nationales promettent même plus de mobilisation et elles pourraient être suivies par leur antenne polynésienne.
Et puis on finit en sport avec ce champion de kickboxing au Fénois.
Il est franco-camerounais, il s'appelle Cédric Doumbé et effectivement c'est un grand champion. 7 titres mondiaux en kickboxing et 4 victoires par KO en 4 matchs en MMA. C'est pour en parler qu'il est en Polynésie, il est le parrain de la grande soirée de Mixed Martial Arts qui se tient ce vendredi au Parc Veirey, une soirée organisée par la toute jeune Octo Fighting League qui accueillera le tout premier combat professionnel du Fénois. Un événement autour duquel les organisateurs mais aussi la DPDJ veulent sensibiliser les jeunes sur les valeurs du sport. Cédric Doumbé a donc enchaîné les rencontres hier au Fare Iroa, c'était à Maïna.
C'est ça aussi la magie du sport, c'est que le sport, c'est un vecteur justement pour véhiculer des bonnes valeurs. Et le fait d'être responsable de ça, déjà c'est une grosse pression sur les épaules, parce que personne n'est parfait et moi le premier je suis pas parfait. Mais si je peux me servir de ça justement pour véhiculer des bonnes valeurs et aider à améliorer les gens et la vie de toutes ces personnes, bah, c'est un rôle que je prends très à cœur.
Cédric Doumbé, donc, qui ne combattra pas vendredi. Dans l'octogone, on pourra en revanche retrouver les pros Flore Agny et Annabelle Merlier-Lemoine. Avant ça, 8 autres combats en amateur, mais là aussi avec des affrontements métropolitains contre polynésiens. L'organisation en est au dernier détail. Avaro Nigel le rappelle, une soirée comme ça, ça ne s'improvise pas.
Autour de la cage, tu as minimum 50 personnes, hein, entre associés officiels, donc les juges, arbitres, cutman, commissaires, toutes les personnes qui sont vraiment autour du MMA. Et ensuite, la partie médicale, un gros travail avec les secouristes, médecins du sport, réanimateurs, ambulances, voilà. Toutes ces personnes-là, plus ben, tout ce qui est médias, radio, autour de la cage.
Avaro Nigel, combattante de MMA, mais en l'occurrence co-organisatrice de la soirée avec l'Octo Fighting League. Elle précise que le tournoi de ce vendredi au parc Veyreuil se fait en partenariat avec la fédé locale amateur de lutte, mais aussi la Ligue Pro Internationale ISKA. Ah voilà, c'est la fin de ce journal. Juste avant de finir, à noter que le festival TVVO a entamé hier soir sa dernière semaine. Après les secrets de famille et le nucléaire, place au troisième thème, les Matayapo. À partir de demain soir, sera donc présentée au Petit Théâtre la pièce belge Home, qui promet beaucoup d'émotions. Les billets, c'est bien sûr sur ticketspacifique.pf. Voilà, le retour de l'actualité, ce sera à 16h et ce sera pour le Flash.
Merci beaucoup Charlie.